Il y a 2 ans, une étude réalisée en Allemagne avait suscité une vive émotion dans le public en montrant une baisse considérable des insectes volants, évaluée à 75% lors des 25 dernières années. Et il y a un mois, une nouvelle publication sortie dans Nature, toujours réalisée en Allemagne, enfonçait le clou en montrant la chute spectaculaire des arthropodes, ce groupe qui comprend les insectes, les araignées ou les mille-pattes. L'hécatombe se poursuit donc sous nos latitudes et rien ne semble pouvoir enrayer ces effondrements d'insectes. Dans un instant, je reçois l'entomologiste Philippe Grandcola pour décrypter avec lui ses observations et nous dire ce qui est à l'origine de ces disparitions massives. Vous pouvez bien sûr lui poser toutes vos questions dès maintenant au 01 45 24 7000 sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On passe au vert ensemble dans quelques minutes.
Oui, je suis allée voir un député qui a parlé du prétendu réchauffement climatique la semaine dernière à l'Assemblée nationale.
Et ça nous intéresse beaucoup. Dans la deuxième demi-heure, un nouveau reportage avec vous Guy Vanctil. Bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Destination Islande toute la semaine.
Oui, et c'est pas pour parler d'aurore boréale, mais de nuages, ou plutôt de cloud en version originale, puisque l'Islande est aussi en train de devenir une destination pour nos données numériques, toujours plus énergivores.
Premier épisode tout à l'heure, et puis enfin notre invité découverte est le vétérinaire et primatologue Marc Ancrenas, qui vit à Bornéo et qui travaille à la sauvegarde des populations d'orang-outans. Voilà donc pour le sommaire de cette Terre au carré, réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Grégory Vallon.
Mathieu Vidard. La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour Philippe Grandcola.
Bonjour.
Un vol d'abeilles pour vous accueillir aujourd'hui, vous qui êtes entomologiste, donc spécialiste des insectes, directeur de recherche au CNRS et responsable de l'Institut de Systématique au Muséum National d'Histoire Naturelle. Je le disais tout à l'heure, le 31 octobre dernier, la revue Nature livrait les résultats catastrophiques concernant les populations d'arthropodes. Alors avant d'entrer justement dans les résultats de cette étude, quel est ce groupe d'animaux exactement?
Alors les arthropodes, c'est un grand groupe d'organismes qui comprend les insectes, les mille-pattes, les araignées, les acariens et quelques autres groupes un peu moins connus. Donc ce sont des animaux à squelette externe et à pattes articulées comme leur nom l'indique.
Il y a combien d'espèces à peu près?
Alors dans le monde, il y a plus d'un million d'espèces connues par la science, mais en réalité, toutes les estimations statistiques laissent penser qu'il en existe probablement 4 à 5 fois plus pour le moins.
Donc tous ces arthropodes que nous n'avons pas encore découverts, évidemment. Cette étude donc dont on va parler avec vous a été réalisée en Allemagne, tout comme celle d'ailleurs de 2017, qui avait suscité beaucoup d'émotions de la part du public, et qui a même peut-être, je ne sais pas si vous êtes d'accord, contribué finalement au fait que le public s'intéresse aussi de très près à la biodiversité aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est vrai que les insectes fascinent. D'une manière générale, on les connaît dans notre univers quotidien, entre l'abeille, le moustique, la mouche... Certains qui sont un peu moins de réputation, un peu moins sympathiques, comme le cafard ou la punaise de lit, mais ce sont des animaux qui ne laissent pas indifférents. Et aujourd'hui, on sait très bien leur rôle dans les écosystèmes de notre environnement, qu'ils contribuent à beaucoup de services, qui constituent aussi, à leur manière, un patrimoine naturel qu'il faut essayer de sauvegarder. Donc ces études qui font des bilans sur 20 ans pour la première étude et sur une petite dizaine d'années pour l'étude qui vient d'être publiée, en fait, montrent vraiment une tendance très inquiétante, tout au moins en Europe, pour ce qui est de ces études précises.
Qu'est-ce qui distingue d'ailleurs ces deux travaux, là, 2017 dans PLOS ONE, je crois, à l'époque, et là, aujourd'hui, dans Nature? Parce que le terrain d'étude, c'est toujours l'Allemagne. Pour quelles raisons, d'ailleurs?
Alors, ce sont des études qui ont été rendues possibles par la menée d'observations sur de longues périodes de temps, ce qui est loin d'être facile et évident à mettre en place. Ça veut dire que des structures scientifiques doivent obtenir des financements pérennes de manière à ce que des échantillonnages soient réalisés dans le milieu naturel pendant 10 ou 20 ans. Alors la première étude était très localisée, elle était très bien faite, mais très localisée, et les chiffres qui avaient été donnés étaient des chiffres d'abondance et de masse, et donc on ne distinguait pas les différentes espèces qui étaient dans l'échantillon récolté, ce qui est un gros travail évidemment. Il faut se rappeler par exemple qu'en France, on a 40 000 espèces d'insectes. Donc avoir un échantillon global dans un milieu, même un milieu, un paysage classique de l'Allemagne, ça représente un gros travail de séparation des différentes espèces, d'identification. Alors le travail qui vient d'être publié dans Nature, lui, a fait ce travail colossal, et notamment ce travail porte sur une durée un petit peu plus restreinte, 10 ans malgré tout, 9 ans, presque 10 ans. Mais ce travail a permis de séparer plus de 2500 espèces, et il porte sur plus de 290 localités, à la fois dans des prairies, dans des forêts, dans 3 régions d'Allemagne. Donc là, vraiment, on a une image générale de ce qui se passe.
Donc c'est une photographie intéressante, très précise, un travail colossal, d'ailleurs, peut le dire, oui, de la part des chercheurs qui ont véritablement récolté, classé, compté, pesé toutes, oui, ces espèces d'arthropodes.
Oui, tout à fait. Oui, c'est un travail qui est loin d'être négligeable. Ils ont même assigné ces espèces à différentes guildes, c'est-à-dire des groupes d'espèces qui ont la même manière de se nourrir, la même fonction dans les écosystèmes. Donc ça permet de voir aussi comment l'ensemble de ces espèces réagit aux modifications de l'environnement.
Ouais. 10 ans, c'est une durée suffisante pour avoir déjà une bonne image finalement de la situation.
C'est vrai que les auteurs soulignent que cette étude, même si elle est limitée à une décennie, en fait, s'inscrit dans les tendances qui ont déjà été décrites par les travaux précédents. Mm-hmm. Et effectivement, par exemple, les résultats sont tout à fait compatibles avec l'étude qui avait été publiée auparavant sur un nombre de localités plus restreint. Donc, on se trouve vraiment dans une tendance qui est assez bien établie, tout au moins au niveau de l'Allemagne. Et puis ça correspond aussi aux tendances qui ont été observées de manière un peu plus locale, un peu plus restreinte depuis les années 90, parce que les premiers travaux échantillonnés avec des chiffres, avec des traitements statistiques qui permettent de documenter des pertes d'espèces ou des pertes d'abondance datent quand même aujourd'hui d'il y a 30 ans. Hein, voilà. Sans parler, bien sûr, des mentions et des remarques qui ont été faites par des scientifiques, mais de manière un peu moins établie dans les décennies précédentes.
Même à notre échelle citoyenne, d'ailleurs, on observe aussi la disparition des insectes autour de nous.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un phénomène que chacun appréhende. Alors, évidemment, c'est très difficile de le quantifier parce que chacun d'entre nous a des souvenirs sur l'environnement qui sont quelquefois embellis ou au contraire appauvris selon les bons ou les mauvais moments qu'on a passés dans ces environnements. Mais malgré tout, c'est vrai que la tendance est si catastrophique quand on voit qu'il y a pratiquement 80% d'abondance en moins dans certaines localités en Europe. 80%, c'est effectivement colossal. Et là, on s'en rend compte, effectivement, tous les jours dans son jardin ou dans son environnement familier.
Donc Philippe Grandcolas, cette nouvelle étude Nature, elle confirme l'hécatombe ?
Elle confirme l'hécatombe et elle s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large, dans lequel, qui était déjà connu, hein, grâce à un certain nombre de travaux, notamment comme celui, le rapport qui avait été rendu par la plateforme internationale IPBES au début de 2019, sur la biodiversité en général. Et là, on rejoint finalement, avec ces études très précises, des conclusions qui avaient déjà été apportées sur l'ensemble du vivant, et de manière très générale, hein, y compris d'ailleurs pour des milieux tropicaux, parce que bien sûr, les deux études dont on parle en Allemagne la portent donc sur des milieux analogues au milieu naturel de la France, alors que la situation sous les tropiques est aussi catastrophique, mais pour des raisons légèrement différentes. Voilà.
On a des travaux similaires, justement, pour ce terrain de jeu qui est le vôtre, d'ailleurs, les tropiques.
Oui, tout à fait. Malheureusement, on est dans une situation très contrainte. D'abord, très peu de connaissances. On le disait au début, 1 million d'espèces, en réalité, beaucoup plus. Donc, chaque échantillonnage, chaque travail que l'on fait dans une forêt tropicale, dans une savane, apporte un lot d'espèces nouvelles qu'il faut arriver à déterminer, à séparer. Donc c'est un préalable à toutes les analyses statistiques qui sont conduites a posteriori. Et puis, évidemment, peu de scientifiques qui conduisent des études sur ce type de sujet par rapport à l'immensité du sujet. Néanmoins, les méta-analyses, les revues de la question qui ont été publiées durant ces dernières années montrent bien, là encore, qu'on est dans une dynamique, malheureusement, de déclin pour tous les écosystèmes.
Ouais. Philippe Grandcolas, juste pour donner quelques résultats précis de l'étude qui nous intéresse aujourd'hui, Nature, les résultats donc dans les prairies montrent que le poids total des arthropodes a diminué de 2/3, c'est 67%. Leur nombre à ces animaux a baissé de plus des 3/4, 78%, et le nombre d'espèces d'un tiers. Donc c'est aussi toute la diversité finalement qui disparaît. Ça pour les prairies. Dans les forêts, c'est un petit peu différent pour les résultats. Le nombre d'espèces a diminué de 36% et la biomasse de 41%. Le nombre d'arthropodes en forêt n'aurait pas bougé, lui. Hein.
Oui, effectivement, les situations sont un peu contrastées. En forêt, les auteurs attribuent ces chiffres à une répartition différente, quelque part des abondances. On a une abondance qui reste stable, mais avec finalement des populations d'espèces opportunistes qui augmenteraient et puis des populations d'espèces un peu plus rares, un peu plus spécialisées qui diminueraient. D'ailleurs, c'est une tendance qu'on retrouve également dans les prairies. Hein. Bien entendu, les espèces les plus spécialisées, les plus fragiles et les plus délicates en termes d'habitat, de mode de vie, sont généralement les premières affectées par les raisons du déclin, hein, qui se nichent dans des causes assez générales de gestion de l'environnement et de structure du paysage.
Philippe Grandcolas, ce qui est choquant finalement, c'est l'amplitude de la diminution, de la perte donc de ces animaux, et c'est l'accélération aussi du phénomène. Quand on a des chiffres de 78, voire 80% de disparition, est-ce que ça veut dire qu'à terme et très rapidement, on va voir disparaître totalement ces insectes ?
Alors, c'est vrai que ces chiffres sont vraiment inquiétants. Et bien sûr, ils sont obtenus à un niveau régional. Mmh. Et la plupart des espèces qui sont étudiées dans ces milieux allemands, en fait, ont des répartitions très larges à l'échelle de l'Eurasie. Mmh. Donc, même si les populations allemandes venaient à disparaître dans les prochaines décennies, on pourrait espérer que ces espèces restent existantes dans d'autres parties de leur aire de répartition, mmh, et qu'avec une meilleure gestion de l'environnement, elles puissent retrouver des niveau de population suffisant pour réenvahir quelque part leur aire de distribution originelle. Le souci, c'est que dans beaucoup d'autres parties de ces aires de distribution, on est confronté à des gestions de l'environnement qui sont analogues, mmh, et donc on peut se poser la question, effectivement, pour un certain nombre de ces espèces, de leur disparition pure et simple à terme. Mmh.
Que nous dit l'étude sur les causes, justement, de la disparition? Elles sont mieux analysées également, hein, que dans la précédente étude. Hein.
Oui, tout à fait. Là, il y a vraiment des conclusions très importantes. Les espèces de prairies, manifestement, sont sensibles à la structure de l'environnement dans une large région autour de chaque localité étudiée. Ce qui veut dire qu'en fait, si le pourcentage de terres agricoles est plus important au sein de cette région, les localités étudiées se trouvent en fait avec moins d'espèces au bout de 10 ans. Mm-hmm. Ce qui laisse penser que en fait, c'est bien la gestion humaine de l'environnement immédiat et pas seulement, bien sûr, un changement global climatique qui amène à ce type de déclin.
Et donc c'est clairement le modèle agricole aujourd'hui tel qu'il existe qui est pointé du doigt dans l'étude ?
Alors l'étude ne permet pas de distinguer entre structure du paysage et intrants dans les cultures, pesticides, etc. Mmh. Mais évidemment les deux probablement sont influents. La plupart des études sur les insectes dans des paysages agricoles ou des agroécosystèmes européens pointent à ce type de relation. À la fois, c'est vrai que certaines espèces ont besoin d'une végétation diverse, et si vous remplacez cette végétation par exemple des champs de blé ou des champs de maïs, bien évidemment, ces espèces n'ont plus leur habitat. Mais d'autre part, effectivement, l'épandage de pesticides a une influence importante, et elle a une influence en plus permanente. Hein, là, il y a des travaux qui ont montré récemment en France, dans une zone d'étude du CNRS, que les néonicotinoïdes qui sont maintenant bannis, en fait, ont encore des densités qui leur permettront malheureusement d'avoir une mauvaise influence sur les populations d'insectes pendant plusieurs années.
Et pas seulement pour les abeilles, hein, parce qu'on en a beaucoup parlé pour les abeilles, mais ça concerne beaucoup d'autres insectes également. Philippe Grosscola, vous êtes l'invité de la Terre au Carré cet après-midi. Des questions pour vous de la part des auditeurs, on vous retrouve dans un instant. Et pour vous interroger, bien c'est le 01 45 24 7000 et les réseaux sociaux.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille Cronier, on passe au vert, Camille, ensemble, et vous revenez aujourd'hui sur une phrase prononcée par un député la semaine dernière à l'Assemblée nationale.
Oui, le député Les Républicains Jean-Charles Taugourdeau, élu depuis 17 ans, depuis juin 2002, de la 3e circonscription du Maine-et-Loire. Il est basé à Beaufort-en-Vallée, c'est entre Saumur et Angers. Mardi dernier, séance hebdomadaire de questions au gouvernement, Jean-Charles Taugourdeau prend la parole pour parler des retraites. Il parle de l'argent public, de la disparition du travail de fabrication et de production en France, et enchaîne comme ça.
Tous ceux qui travaillent n'en peuvent plus de la multitude de normes édictées au nom du développement durable et du prétendu réchauffement climatique. Vous savez ce qu'ils disent, les Français, dans nos campagnes ? C'est le nouveau truc à la mode pour nous pomper notre fric.
Le prétendu réchauffement climatique est donc le nouveau truc à la mode. Autant vous dire qu'en entendant ça, j'ai voulu savoir ce que M. Taugourdeau avait dans la tête. Il a forcément des arguments. Direction donc l'Assemblée nationale, où j'ai pu échanger avec le député de droite à sa sortie de l'hémicycle. Vous parlez de prétendu réchauffement climatique. Ça veut dire que vous mettez en doute le consensus scientifique du réchauffement climatique et des changements climatiques.
Écoutez, quand je prends mon journal, que je vois en gros titre réchauffement climatique, il n'y a plus une minute à perdre, je trouve ça tellement grotesque et ridicule que ça, c'est juste un préambule à l'interdiction de tout et n'importe quoi au nom du réchauffement climatique. Donc en fait, quand je dis...
Le réchauffement climatique, vous n'y croyez pas, entre guillemets ?
Mais il peut y avoir actuellement un réchauffement climatique, à part qu'on est en même temps dans une ère de refroidissement. Mais tout est sinusoïdal dans la vie. Donc on peut être dans une petite période de réchauffement climatique tout en étant dans une période de refroidissement.
Mais vous savez que là, le discours que vous avez, c'est un discours de ceux qu'on appelle aujourd'hui les négateurs du climat.
Oui, non, moi je suis pas négateur du climat. Écoutez, j'ai vécu avec le climat et avec la météo pendant 30 ans puisque j'étais horticulteur et je produisais des plants de légumes et des plantes aromatiques.
Ah, le fameux argument, hein, vous savez, c'est comme les gens qui sont pas racistes parce qu'ils ont des amis noirs ou pas misogynes, parce qu'ils ont une femme dans leur équipe. Jean-Charles Taugourdeau continue.
Aujourd'hui, on est sous la dictature d'un lobby qui est extraordinairement puissant, parce que en plus très agréable, développement durable, Tout le monde veut de l'air pur, tout le monde veut des beaux paysages.
Le lobby du développement durable qui génère des milliardaires, ajoutera-t-il quelques minutes plus tard devant la caméra de la chaîne parlementaire.
Est-ce que ce député Camille est coutumier de ce genre de déclaration ?
Pas vraiment. Enfin, moi, je vous avoue, je le connaissais pas avant mardi dernier, et pas mal de collègues des services politiques, donc un petit peu plus à la page que moi non plus. Je suis allée voir son site internet pour me faire une idée. Jean-Charles Taugourdeau est élu d'un territoire rural, spécialiste des questions d'emploi, et il partage de nombreux articles signés Luc Ferry ou Laurent Alexandre, climato-sceptique notoire, pourrait-on dire. Revenons à l'Assemblée, notre échange reprend.
Je ne remets pas en cause. Moi, aujourd'hui, j'intègre que tous les scientifiques ne sont pas à 100% d'accord sur le principe du réchauffement climatique. L'intégrisme, il n'est pas chez moi. Il est chez ces gens-là.
Qui ça, ces gens-là ?
Ces gens qui vous disent aujourd'hui, ces gens qui se servent aujourd'hui de Greta Thunberg pour. Et moi, quand j'ai vu Greta Thunberg à l'Assemblée, j'ai dit tiens, on va organiser un débat entre des climatologues pour et des climatologues qui pensent pas la même chose. Voilà. Et est-ce qu'on peut organiser ça ? Eh ben non, parce que le GIEC est contre. Ils veulent pas débattre avec des climatologues qu'ils appellent sceptiques ou des négationnistes. C'est pas. On peut avoir des avis contraires. Quand on veut pas débattre, c'est justement qu'il y a quelque chose qui est pas normal.
Alors, tout cela se passe de commentaires, mais pose une question. Quid de la responsabilité de Jean-Charles Taugourdeau, hein, c'est-à-dire pour ça que je vous le fais entendre aujourd'hui, c'est pas un monsieur croisé au hasard dans la rue, mais un élu, il est député, il a donc une parole nationale. Vous allez entendre sa réponse, même si sa collaboratrice voulait que ça s'arrête.
Est-ce que vous n'avez pas une responsabilité en tant que parlementaire
Votre collègue, attendez,
en tant que journaliste, vous avez aussi la responsabilité de passer toutes les informations. C'est plus de l'information,
mais il y a pas que
ça
une
devient.
Phrase.
Non, mais
c'est une question
plus de l'information, ça devient de la politique. Ce que vous faites, c'est plus du journalisme.
Alors, si, hein, et effectivement, notre responsabilité, Mathieu, c'est bien d'informer. Donc, ouvrez bien les oreilles. Hein. Le changement climatique n'est pas un prétendu réchauffement climatique, c'est un fait. Ça s'appelle la science, rappelé d'ailleurs par le chef des Républicains, Christian Jacob, la semaine dernière, pendant que Jean-Charles Taugourdeau regrettait, je cite, un déferlement de cinglés.
Voilà, c'est à réécouter, évidemment, sur franceinter.fr.
Philippe Grand-Cola, une réaction face à ce genre de discours d'un parlementaire, encore une fois.
Je vous voyais consterné pendant le sujet.
Hein. Oui, effectivement, c'est assez inquiétant. Là, on n'est pas, comme vous l'avez souligné, dans un avis individuel qui ne porte pas tort à des démarches collectives scientifiques. On est devant un représentant élu. Moi, je suis consterné, d'autant plus que les plateformes internationales comme le GIEC ou l'IBES sur le climat et la biodiversité, respectivement, ont développé des procédures qui les mettent au-dessus de tout soupçon en matière de divulgation claire des résultats scientifiques. Ce sont des dires d'experts sur des avis sur lesquels il y a un consensus de la communauté, sur lesquels ce sont des avis qui sont ouverts à la discussion, sur lesquels il y a des dizaines de milliers de commentaires. Donc les rapports résultants ne sont pas des avis divergents d'une partie de la communauté. Ils révèlent réellement les résultats de la science au jour d'aujourd'hui. Donc effectivement, ce type d'avis ne correspond absolument pas à la réalité des faits et des travaux scientifiques.
D'où la question du débat, justement. Pourquoi pas faire un débat entre des climato-sceptiques et des gens du GIEC, par exemple ?
Oui, alors effectivement, le danger d'un tel débat, c'est que finalement, on se fait instrumentaliser quelque part par des personnes qui n'ont pas d'arguments scientifiques à opposer, puisque les arguments scientifiques, ils ont déjà été discutés au sein des plateformes.
Et ils font consensus.
C'est comme si on demandait un débat sur est-ce que la Terre est ronde.
Voilà, exactement.
Donc, il n'y a pas de débat.
Non. Voilà. Et là, on va vraiment vers une attitude qui ne respecte pas tout simplement des procédures scientifiques et qui n'a aucun intérêt, si ce n'est de donner une audience à des personnes fantaisistes.
Vous rencontrez des sceptiques sur la question de l'effondrement des populations d'insectes aussi, on en croise ou pas ?
Oui, tout à fait. Ah, oui. C'est d'une certaine manière, c'est un scepticisme un peu plus discret, mais malgré tout, il existe également.
Allez, Philippe Grand-Cola, on parle avec vous justement de cette hécatombe chez les insectes avec les questions des auditeurs dans un instant.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame, c'est je ne fais plus la fête. Ou si sereine, ou fais-tu juste la guerre. La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. La gabarre devient loup, ça part.
Seul, seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul. Loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul. Loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je
pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Où es-tu sereine, où fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, 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 je veux être seul. Seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et donc je plonge dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Seul, 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 je veux être seul.
Dilemme, c'était Loose and the Yakuza.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard. Sur France Inter.
Philippe Grandcola, entomologiste, donc spécialiste des insectes, avec nous cet après-midi dans la Terre au carré. Votre spécialité d'ailleurs, c'est quoi, vous, votre insecte fétiche?
Alors, à l'origine, je travaillais sur l'évolution des blattes, pas les blattes domestiques évidemment, mais sur l'ensemble des blattes qui comportent actuellement à peu près 4000 espèces connues, une vingtaine de milliers en réalité, et principalement dans les milieux tropicaux. Ouais. Ce sont des proches parents des termites, et également de sinistres mémoires, si je puis dire. Et l'ensemble de ces groupes, en fait, façonnent complètement les forêts tropicales par leur intervention sur la matière organique.
Ça laisse de bons souvenirs à Camille.
Oui, vous avez rencontré, vous m'avez dit qu'il y avait quand même une espèce dans les blattes qui n'avait pas vraiment d'utilité, entre guillemets, dans la biodiversité, c'est les petits cafards qu'on trouve chez nous dans nos cuisines. Ça, on a le droit de les écraser.
Effectivement, ceux-là, on peut s'en débarrasser sans trop de... Alors, malgré tout, de scrupules.
Attention au message que vous délivrez sur l'antenne, on va recevoir des messages, justement.
C'est ceux que les gens connaissent.
La manière compte, c'est-à-dire que le but, évidemment, n'est pas de s'intoxiquer à domicile pour se débarrasser de quelques insectes qui n'ont pas qui posent pas un problème colossal malgré tout.
Allez, les questions des auditeurs, et elles sont nombreuses, et des auditrices. Jacques, pour commencer, nous dit, quelles sont les conséquences finalement de l'effondrement de ces populations d'insectes?
C'est vrai que c'est effectivement ce à quoi il faut réfléchir immédiatement. On sait que les insectes contribuent à énormément de processus dans les écosystèmes. On connaît tous la question de la pollinisation, évidemment. En France, par exemple, 900 espèces d'abeilles. On parle toujours de l'abeille domestique comme pollinisateur, mais il y a un tiers de cette pollinisation, un tiers à un quart, qui est réalisé par des espèces solitaires sauvages. Donc, vous supprimez ces espèces, vous allez avoir des problèmes de services de pollinisation.
On connaît tous. Un mille-pattes, ça ne pollinise pas.
Par contre, un mille-pattes, alors certains mangent des feuilles mortes et aident les sols à régénérer la matière organique. D'autres sont prédateurs et régulent des populations au sein du sol. Donc, il y a beaucoup, beaucoup. On connaît aussi le rôle des araignées, qui prédatent d'autres insectes. Donc, on est face à une diversité colossale, 40 000 espèces en France, dans lesquelles il y a de multiples interactions qui sont très difficiles à étudier de manière globale. Néanmoins, on sait déjà que si on perd une très grande partie des populations, voire des espèces, on va perdre un certain nombre de services associés.
Alors on a Jérôme sur l'application France Inter qui nous dit « Récemment, deux chercheurs britanniques ont émis des doutes sur la solidité des conclusions de cette étude allemande. Ils soulignent que la méthode choisie par l'équipe peut être influencée par les déplacements des arthropodes et par des changements de végétation. De même, une étude britannique sur les papillons ne conclut conclut pas une hécatombe. Qu'en pensez-vous? Quelle fiabilité donner à toutes ces études?
Alors effectivement, là, on est dans le travail scientifique, hein, où à chaque fois qu'une hypothèse est avancée, puisque le mot hypothèse, en l'occurrence, n'est pas du tout négatif, hein, quand on a des faits, on les analyse, et le résultat des faits, de l'analyse de ces faits, ce sont des conclusions qu'il faut remettre sans arrêt sur le métier.
C'est la méthode scientifique.
C'est la méthode scientifique, voilà. Et en l'occurrence, l'étude allemande en question est extrêmement robuste et elle fait justement la part des différents insectes, ceux qui sont capables de se disperser et ceux qui sont moins capables de se disperser. Et elle distingue d'ailleurs des effets différents de l'environnement sur ces insectes. Donc ce problème est pris en compte. Je ne pense pas que la remarque des chercheurs anglais soit très judicieuse. Alors ce qui concerne les papillons, évidemment, sur l'ensemble de 40 000 espèces d'insectes, vous imaginez que vous allez avoir un déclin global, hein, mais vous allez aussi avoir quelques espèces qui profitent localement de telle ou telle circonstance qui change. Voilà. Vous pouvez avoir une espèce qui profite de certains modes de culture malgré la présence d'intrants. Vous pouvez avoir des espèces qui profitent, hein, d'un changement climatique avec des étés torrides ou des saisons, des arrière-saisons plus longues. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans ce qui a été détecté par l'étude allemande dans les milieux forestiers où des espèces assez opportunistes finalement se portent pas mal en forêt.
Patrice nous dit ceci, il vous demande s'il existe des réserves naturelles dédiées à la protection des insectes.
Alors il n'y a pas de réserve dédiée à la seule protection des insectes, mais oui effectivement il y a en France et en Europe bien entendu un certain nombre de parcs naturels, hein, dans lesquels il y a des chartes de concernant la conservation de la biodiversité et sa gestion. Et donc les insectes en bénéficient comme les autres organismes. Cela dit, il y a bien des espèces qui sont protégées par la loi, hein, et qui sont considérées comme ne pouvant pas être capturées.
Lesquelles, par exemple?
Alors il y a plusieurs espèces de papillons et de coléoptères, hein, qui sont assez emblématiques, dont les populations sont assez restreintes et qui ne peuvent pas être capturées, collectées, cédées, vendues, détruites, etc. Donc là, on est vraiment dans une protection intégrale, mais bon, c'est très important, je dirais, bien sûr, pour ces espèces particulières. Au plan symbolique aussi, parce que ça attire l'attention sur le fait que des insectes peuvent être importants à conserver au même titre que des mammifères ou des arbres. Mais c'est évidemment, ce n'est pas pour autant sans prendre en compte des mesures plus larges de protection de l'environnement et qui permettent de protéger l'ensemble des insectes.
Hervé nous dit, je fauche la nuit avec mon tracteur, je trouve qu'il y a autant d'insectes qu'avant. Selon moi, la disparition n'est pas homogène.
Alors c'est vrai, là encore, hein, peut-être que localement, encore une fois pour des raisons locales, dans un milieu qui est plus favorable localement à certains insectes, on peut avoir une recrudescence de certaines populations. L'étude allemande a le mérite justement d'apporter des arguments à l'échelle quand même de presque l'ensemble du territoire de l'Allemagne. Et donc ça permet vraiment d'avoir un point de vue global. Cela dit, bien sûr, dans un point de vue global comme celui-là, il y a des localités où les circonstances peuvent être légèrement différentes.
Sauf que Camille, nous avons Benoît qui nous dit « Je roule à moto depuis 20 ans et maintenant je n'ai plus à nettoyer mon blouson, mon casque lorsque je roule la nuit car les insectes ont disparu. » Voilà, ils ne sont pas dans la même région peut-être.
Voilà, tout à fait. Et puis il y a aussi là le vécu et le ressenti, hein, qui n'est pas vraiment une méthode d'échantillonnage scientifique. Quelquefois, il est très difficile d'interpréter ce que l'on ressent à un moment donné en fonction de ses souvenirs, surtout quand ils datent il y a 10 ou 20 ans. Et moi-même, voilà, je me place dans cette situation. Je n'ai pas toujours la sensation de l'état des populations de manière intuitive, bien évidemment. Mais ce n'est pas scientifique au demeurant.
Est-ce que les résultats de cette publication, on le rappelle, qui a été réalisée, donc cette étude en Allemagne, on peut vraiment la transposer à la France et à ce que nous vivons chez nous?
Alors, le grand malheur, c'est qu'il n'y a pas en France métropolitaine d'études vraiment analogues, hein, qui ont été poursuivies sur un laps de temps aussi important, sur un nombre de localités aussi important. Malgré tout, les études qui ont été réalisées ici ou là, dans plusieurs régions, en fait, encore une fois, sont en cohérence, malheureusement, avec ces résultats.
Patrice nous dit, au sein de la chaîne alimentaire, la raréfaction des insectes n'entraîne-t-elle pas une diminution des effectifs d'araignées que j'ai l'impression, encore une fois, peut-être à tort d'observer?
Effectivement, les insectes ne sont pas seulement des pollinisateurs ou des détritivores qui aident à recycler la matière organique, ils sont aussi une nourriture pour d'autres organismes. Alors, effectivement, pour les araignées, mais également pour les oiseaux. On sait très bien, par exemple, il y a un certain nombre de travaux qui montrent cela de manière assez claire en Europe, les populations d'oiseaux et les populations d'insectes sont interdépendantes. Donc le déclin des hôtes...
Donc il y a moins d'araignées, ça peut être une réalité.
Ça peut être une réalité, là en l'occurrence l'étude ne va pas dans ce détail.
En tout cas, merci beaucoup Philippe Grandcola d'être venu nous éclairer sur ce travail. Je signale que l'Office pour les insectes et leur environnement fête ses 50 ans. Lundi, ce sera un colloque gratuit au Muséum National d'Histoire Naturelle qui s'appelle Demain les insectes, donc ouvert à vous, amis publics. Ce sera entre 9h30 et 16h30, donc lundi prochain à Paris au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci beaucoup de votre venue aujourd'hui dans la Terre au Carré.
Inter. La Terre au Carré.
Et au menu de cette deuxième demi-heure, il sera question des orangs-outans de Bornéo avec notre invité, le primatologue Marc Ancrenas, qui vit là-bas et qui nous dira si cet animal est vraiment menacé de disparition. Mais pour le moment, c'est le premier épisode d'une nouvelle série de reportages que vous nous proposez, Guy Vanctil. Et vous nous emmenez donc en Islande, dans le cloud, car ce pays est aussi la terre des data centers.
Oui, parce que ça commence à savoir que le numérique est énergivore. Et comme nous produisions toujours plus de data, de données, les émissions de CO2 liées à notre activité en ligne ont maintenant dépasser celle de l'aviation. Ce qui fait qu'un petit pays comme l'Islande déroule le tapis rouge, centre de données et autres fermes à Bitcoin, on le verra plus tard, grâce à son climat froid, qui permet de faire l'économie des circuits de refroidissement, et surtout aux énergies renouvelables, géothermie et hydroélectricité. Et cet argumentaire écolo a l'air de prendre, puisque la consommation d'énergie des data centers y double tous les ans, au point qu'elle a dépassé celle de tous les foyers des 360 000 Islandais. Visite d'un des derniers nés, le data center de la société Etix Borealis à Blönduós, petit village de 1000 habitants au nord-ouest de l'Islande.
My name is Runar.
Runar.
And I am senior data center technician here.
Je suis technicien responsable des données ici.
We opened here 21st of May this year.
Ce centre de données vient d'être inauguré en mai dernier.
We just make sure everything runs smoothly.
On s'assure que tout marche comme sur des roulettes.
Yes.
Et alors je suis, alors on va visiter ça.
Welcome to Iceland, Europe's rising data center hub.
Des grands couloirs.
Here, data centers are powered by renewable energy with excellent connections to the world's most important markets.
Un badge de sécurité. Et on rentre tout de suite dans une pièce avec un fort niveau sonore et une dame qui passe l'aspirateur au fond. Alors là, on voit bâtiment Data Hall A towards B, C, D. Code de sécurité encore. Impressionnant le niveau de bruit à ma gauche et à ma droite, des murs entiers de ventilateurs avec des petits fils jaunes et noirs. Voilà le son que fait l'email que vous envoyez à Tati Thérèse. Voilà par où passe le like que vous avez fait sur Facebook. Voilà par où passe sans doute la vidéo que vous avez regardée sur Netflix ou sur YouTube. Voilà le bruit de l'électronique qui est normalement silencieuse, invisible et immatérielle. Et bien ici, on est en plein dedans. On est dans une pièce gigantesque, toutes ces étagères couvertes de calculateurs à perte de vue, avec chacun son ventilateur et des bouffées d'air chaud qui m'arrivent de tous les côtés, du bruit, un air sec et vicié. Voilà. À quoi ressemble le paradis numérique?
Envoyer un mail n'est pas aussi magique qu'il paraît. Derrière les apparences se cache une facture importante, celle de l'énergie nécessaire pour faire fonctionner Internet. C'est le coût électrique de nos actions digitales.
So many, many calculators. So about 3000 calculators working all together.
Là, dans cette pièce, il y a plus de 3000 calculateurs qui fonctionnent ensemble.
We have four buildings like that with
on a quatre bâtiments comme ça
with 22,000 computers on site.
Avec 22 000 calculateurs,
yes, working, yes.
Qui tournent tous les jours 24 heures sur 24,
yeah, 24/7.
7 jours par semaine, 365 jours par an.
Always.
Tout le temps.
Non-stop.
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 Toutes ces machines chauffent mais ne supportent pas la chaleur. Pour fonctionner, ces installations demandent de l'énergie, beaucoup d'énergie.
Résultat, Internet émet autant de CO2 que le trafic aérien mondial. 2% de nos émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Et hop, dès qu'on sort, on a le petit courant d'air frais.
We have on a house like this, we have four transformers, And each one is 2 megawatts.
On a 4 transformateurs ici qui chacun représente 2 mégawatts.
Just this building.
Ah, and juste ce bâtiment-ci.
This, yeah. We are running the facility on 29 megawatts, something like that.
Il y a 29 mégawatts à peu près pour faire tourner ce centre de données.
Yeah. And Plantos, the town you just came from, for the whole town is using about 1.3 to 1.5 megawatts.
Et la petite ville à côté de Blondoise, pour tous les besoins électriques de cette ville et ses habitants, c'est 1.3 mégawatts. C'est-à-dire qu'on est 20 fois au-dessus.
Exactly.
C'est
exactly.
Ça.
When people come here for the first time, it's always yeah, wow.
Tous ceux qui viennent ici pour la première fois, leur première réaction, c'est toujours de dire wow.
I'm just going to show you another wow.
On va vous montrer un autre wow.
A little bit bigger.
Celui-là est encore plus grand. Ah oui. C'est encore plus grand. Là, c'est une pièce gigantesque. J'espère qu'on m'entend parce que le bruit est assourdissant. Et imaginez le niveau sonore. Et il y a la même chaleur qui va avec. Des bouffées de chaleur devant chaque mur qu'on passe. Il y a au moins 40 degrés dans cette pièce. Et comme on est en Islande et qu'il fait froid dehors, moi je suis en laine polaire. J'ai l'impression d'être tropique. Vous avez raison, la première impression qu'on a, c'est de dire « waouh ».
À lui seul, ce centre a besoin de 20 mégawatts d'électricité, l'équivalent de la puissance nécessaire à une ville de 30 000 habitants.
On calcule qu'envoyer un mail court avec une pièce jointe de 1 mégaoctet équivaut à l'utilisation d'une ampoule de 60 watts,
une ampoule allumée pendant une heure.
Ou encore que visionner un film haute définition d'une heure sur votre smartphone revient à laisser cette ampoule allumée pendant 250 heures.
Chaque heure, 10 milliards d'emails sont envoyés, l'équivalent de la production électrique de 15 centrales nucléaires pendant une heure.
This is a 21st century mining.
Voilà à quoi ressemble une mine du 21e siècle.
Yes, yes, definitely, yeah.
Bon, yeah, continuez la visite.
Ouais, alors c'est vrai que ça peut paraître un peu angélique l'image du data center écolo.
Ah oui.
Hein, c'est vrai que la question de la surconsommation d'énergie doit se poser même en Islande. Et c'est pour ça qu'on retrouvera demain d'autres interlocuteurs avec qui sont aussi parmi ceux qui tirent la sonnette d'alarme.
À demain donc, Guy Van Til. Et en attendant, on peut réentendre votre reportage sur le site de la Terre au Carré. Et puis regarder un petit diaporama avec vos photos de voyage. À demain donc.
À demain.
En raison d'un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
Vous écoutez France Inter.
Parti pour un ailleurs dans la même ville que moi. T'abuses. J'ai des hallucinations sur les trottoirs, je te vois. Je t'assure. Pourtant des cons comme toi, on n'en fait plus que pour les grues, pour les buses. Je noie mon chagrin tout bas, car pour éponger ma peine avec mes potes, j'écris, je suis sourd. barman quand je déballe mon âme sous la table. Mon foie tiendra moins longtemps que tes sentiments. J'ai la vision qui se trouve des tremblements et je me shoote.
France Inter, 14h15, vous êtes dans la Terre au Carré. Dans un instant, l'invité découverte de l'émission est vétérinaire et primatologue. Il s'appelle Marc Encrenaz. Il vit à Bornéo, sur la terre des orangs-outans. Il vient nous en parler dans un instant.
No More Pennies, c'était Starcrawler à l'instant.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
De nos jours, l'un de nos plus proches cousins vit encore dans la jungle de Bornéo, l'orang-outan. Son nom signifie « homme de la forêt ».
Bonjour Marc Ancrenaz.
Bonjour.
Et les orang-outans sont vos amis, vous qui êtes vétérinaire, primatologue et directeur scientifique de cette association Outan, située à Bornéo. Et on profite justement de votre passage en France pour parler donc de ces primates et de la déforestation dans cette partie du monde. Alors c'est vraiment l'origine, c'est malais hein, le nom d'orang-outan.
Oui, Outan en langue malaise ça veut dire forêt. Et orang en langue malaise ça veut dire les gens, donc orang-outan. Comme on dit en malaisien ou orang-outan en français, ça veut dire la personne de la forêt.
Voilà, l'homme de la forêt. Petit point géographie pour commencer, ça ne nous fera pas de mal d'ailleurs. Bornéo, c'est une île immense de l'Asie du Sud-Est.
C'est en effet une très grande île, la quatrième plus grande île au monde. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une île qui est partagée entre trois nations. Donc la Malaisie, là où je travaille, l'Indonésie et aussi le Sultanat de Brunei.
Et c'est plus grand que la France ?
Plus grand que la France.
Ouais. Ah oui, quand même. Mmh. Et alors, sur cette île immense, c'est aussi un territoire immense pour les orang-outans ? Est-ce qu'ils se sont étendus absolument partout ou pas ?
Les orang-outans ont une distribution qui couvrait la totalité de l'île, sauf les zones les plus hautes, les zones d'altitude, les zones de montagne, car c'est des animaux qui préfèrent les forêts de basse plaine, c'est là où ils trouvent des fruits, c'est là où ils trouvent à se nourrir de façon plus facile. Mm-hmm. Donc à l'origine, avant que l'homme commence à déforester ce milieu, on avait en fait des orang-outans pratiquement sur toute l'étendue de Bornéo. Ouais.
Et aujourd'hui, on en voit ou on n'en voit plus à cause de cette déforestation dont on va parler évidemment, mais...
Ça dépend où vous allez. En fait, les orang-outans sont des animaux qui sont très timides, de toute façon, même quand...
Donc ils vont se cacher.
Voilà, ils se cachent et ils se cachent très bien. Parce qu'un orang-outan, ça a beau être gros, c'est à peu près notre taille, les gros mâles en fait, ouais. Ils vivent dans les arbres et quand ils décident de se cacher, on ne les voit plus. Donc les orang-outans sauvages sont très difficiles à trouver dans la forêt. Au demeurant, il y a quand même des populations, par exemple, la population sur laquelle nous on travaille, où les animaux ne sont pas chassés. Donc, ils ont appris à coexister avec l'homme. Ils ont moins peur de la présence humaine. Ouais, on peut parler d'une sorte d'habituation. Du coup, ils sont beaucoup plus facilement visibles. Mais bien souvent, quand on va dans des forêts à Bornéo, même si on sait qu'on a des orang-outans, on va pas les voir. Donc, en fait, en tant que chercheur, ce qu'on recherche comme signe de présence, ce sont leurs nids. Parce que les orang-outans, tous les soirs, avant de dormir, ils construisent un nid.
Ah oui, ils changent de nid tous les soirs.
Tous les soirs.
On dit un nid comme pour un oiseau.
Comme pour un oiseau. D'ailleurs, c'est comme un nid d'oiseau, sauf que c'est 3 fois ou 10 fois plus gros.
C'est pas une cabane.
Non, c'est pas une cabane. Quand il pleut, par exemple, il leur arrive de faire des toits. C'est-à-dire, ils cassent encore plus de branches qu'ils mettent sur la tête. Et puis, donc, ça fait une grosse boule à l'intérieur de laquelle. Boule de branchage à l'intérieur de laquelle on a.
Ce sont des nids solos ou ça peut être partagé par la famille ou par le couple?
Non, ce sont des nids solos en général parce qu'en fait, l'orang-outan, c'est la seule espèce de grand singe qui est semi-solitaire, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vivent pas en groupe. Et en général, dans la forêt, on trouve soit un mâle solitaire, soit une femelle solitaire, souvent avec son jeune. Mais ils ne forment pas de groupe comme les chimpanzés, les gorilles ou les bonobos d'Afrique.
Donc le père abandonne la famille, en fait.
C'est pas qu'il abandonne la famille, c'est qu'il n'intervient jamais dans la...
Mais ils vivent pas ensemble.
Non, il n'intervient jamais dans l'élevage du jeune.
Marc Ancrenaz, vous signez ce mois-ci dans le Courrier de la Nature un dossier complet justement sur la question de l'orang-outan à Bornéo qui est titré « L'orang-outan va-t-il réellement disparaître ?» Pourquoi est-ce que vous posez cette question justement en une de ce dossier ?
Question d'actualité, l'orang-outan est actuellement classé en danger critique d'extinction par... l'Union internationale de conservation de la nature. Ça veut dire que les effectifs sont en chute libre. Ça ne veut pas dire forcément que l'espèce va disparaître. On entend souvent que l'espèce va disparaître d'ici à 10 ou 20 ans, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a certaines populations sur l'île qui sont bien protégées et qui s'adaptent et qui sont stables. Certaines même commencent à remonter. Le problème, c'est qu'on a toujours de la déforestation sur certaines zones de l'île. Donc on a toujours des populations qui sont... menacée de disparaître dans les 20, 30, 40 années. Mais l'espèce en tant que telle, je ne pense pas qu'elle va disparaître de sitôt.
On arrive à estimer la population totale d'orang-outans, donc à Bornéo par exemple, parce que le comptage est difficile, d'autant que vous dites que ces animaux sont difficiles à repérer. Donc.
Le comptage est extrêmement difficile, et on voit beaucoup de chiffres qui sont amenés dans les médias. On ne sait pas exactement combien il y en a, combien il en reste. Les derniers recensements, les dernières analyses qu'on a pu faire avec de la modélisation d'ordinateurs et autres montrent qu'on aurait entre 60 et 80 000 orang-outans sur l'île. Mm-hmm. Par contre, on a aussi montré qu'on en avait perdu plus de 200 000 sur les 25 dernières années.
Est-ce que vous dites sur le fait que l'espèce, selon vous, ne devrait pas disparaître? Ça va faire les affaires de notamment ceux qui produisent de l'huile de palme et ceux qui en sont à la demande et qui sont à l'origine de cette déforestation, notamment à Bornéo.
Le truc, c'est que c'est une situation qui est un peu plus complexe que ça. Déjà, les deux principales menaces qui pèsent sur cette espèce, c'est la chasse, et on en parle pas souvent, mais sur de nombreux endroits sur Bornéo, les orang-outans sont encore chassés pour leur viande.
On le mange donc. Hein.
Ouais. Sur certaines ethnies à Bornéo, on mange de l'orang-outan. Et donc on s'est rendu compte que certaines populations qui vivaient dans des forêts protégées, où on n'a pas de déforestation, sont en déclin à cause de la chasse. L'autre raison, c'est la déforestation. La déforestation est plurifactorielle, elle n'est pas uniquement due au développement de l'industrie du palmier à huile, elle est due au développement de d'autres industries aussi.
C'est-à-dire donc, lesquelles, par exemple? Parce que c'est vrai qu'on a une image assez binaire, même pas binaire d'ailleurs. Hein, assez,
On peut parler du caoutchouc, on peut parler du bois pour la pâte à papier, on peut parler des exploitations minières et autres. Donc, l'industrie du palmier à huile est un des éléments responsables de la déforestation, est un des éléments de la disparition de l'orang-outan sur certaines populations de l'île, mais ce n'est pas la seule raison.
Sauf que là, vous dites, il reste à peu près 80 000 orang-outans sur l'île de Bornéo. On a vu une disparition de 200 000, vous disiez, sur les 20 dernières années. Ouais. Donc c'est deux tiers de la population.
Et c'est pour ça que l'orang-outan est classé en danger critique d'extinction, parce qu'en fait, le déclin est très rapide. Mmh. Mais comme je le disais tout de suite, on se rend compte que certaines populations commencent à se stabiliser et commencent à reprendre un petit peu leurs effectifs.
Donc on peut parler d'une résilience de l'orang-outan et...
C'est une des problématiques sur laquelle nous travaillons depuis 20 ans, ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on est installé à Bornéo, et on travaille sur l'adaptabilité de cette espèce à la dégradation de son milieu, à la dégradation de la forêt. Donc au départ, on travaillait sur des zones de forêt qui étaient très dégradées. On ne pensait pas à l'époque que l'orang-outan puisse survivre. Nos travaux ont montré qu'en fait, il s'adapte très bien, parce que l'orang-outan, c'est une espèce intelligente qui peut ajuster son comportement alimentaire, son comportement social à l'habitat dans lequel il survit. Et depuis quelques années, nous nous sommes rendus compte aussi que les orang-outans recommençaient à aller dans les zones de plantations agricoles. Donc, a priori, là où on travaille, c'est surtout des palmiers à huile. Et en fait, on se rend compte que ces animaux peuvent utiliser les palmeraies comme nouvel habitat pour eux. Donc, ils y vont pour se nourrir, ils y vont pour se déplacer, mais on a aussi trouvé des femelles qui ont survécu dans ces zones-là depuis 10, 15, 20 ans et qui se reproduisent à l'intérieur de ces zones agricoles. Donc, vous parlez de résilience, c'est exactement la problématique sur laquelle nous, on travaille, parce qu'en fait, on se rend compte que pour des espèces telles que l'orang-outan, qui sont des espèces qui ont des aires de distribution très larges, ça ne va pas suffire de protéger les forêts. Car il y a beaucoup d'animaux qui se retrouvent en dehors des zones protégées de toute façon. Et donc, nous, notre approche, c'est d'essayer de trouver des moyens pour que l'homme et l'animal puissent coexister sur ces zones non protégées. Que ce soit des zones de plantation de palmiers à huile, des zones de plantation d'EVA, des zones de plantation d'arbres pour la pulpe à papier et autres.
Comment vous faites alors pour qu'ils arrivent à coexister?
En fait, les orang-outans ne survivront dans ces zones-là que si on a des zones de forêt. Donc l'idée, c'est soit de protéger des corridors de forêt à l'intérieur des zones de développement, soit dans notre cas à Sabal où on travaille, de restaurer les écosystèmes, de replanter des arbres pour créer des corridors, pour créer des petits morceaux de forêt à l'intérieur des plantations.
Les populations, malaises ou indonésiennes, sont sensibles à la question de l'orang-outan sur leur territoire ou pas?
De plus en plus, car en fait, sur une zone comme Sabah, le gouvernement est très anxieux de développer du tourisme. Évidemment, l'orang-outan, c'est une espèce icône qui attire beaucoup d'attention. Les gens se rendent compte de plus en plus que de toute façon, la solution, elle est de partager le milieu, de partager les ressources avec les espèces qui survivent dans la zone, que ce soit les orang-outans, les éléphants ou d'autres.
Et l'huile de palme, il faut la boycotter ou pas alors?
Là encore, c'est une question qui est très intéressante. C'est une question à laquelle il n'y a pas de solution simple. Parce que l'huile de palme, c'est un problème complexe. L'huile de palme est très utile pour des pays comme l'Indonésie et la Malaisie pour leur développement économique. Je ne pense pas qu'on doive boycotter l'huile de palme. Par contre, ce qui serait vraiment intéressant et important de faire, c'est de privilégier l'huile de palme qui est issue de la non-déforestation. On a de plus en plus d'industriels, qu'ils soient producteurs ou acheteurs, qui se lancent sur cette sur
l'huile
ce cheminement.
De palme durable, hein, tout simplement.
Ouais, de l'huile de palme durable, qui n'est donc pas responsable de déforestation ou d'exploitation des tourbières.
Et vous n'avez aucun lien d'intérêt, évidemment, avec les industries de l'huile de palme.
Non, nous ne travaillons pas du tout. Enfin, on n'est pas supporté par l'industrie du palmier à huile. On est complètement indépendant. Mais par contre, comme nous, on se rend compte qu'on a des orang-outans qui vivent dans leur milieu, dans les zones de plantation, il nous faut travailler avec.
Merci beaucoup, en tout cas, le courrier de la nature, pour ceux qui souhaitent en savoir plus. C'est ce dossier que vous signez ce mois-ci autour de l'orang-outan. Et bon retour, donc, à Bornéo. À bientôt. Merci.